À force d'avoir vécu et fait vivre si longtemps la minute présente, branché en direct sur l'événement, j'en étais arrivé à perdre la notion du temps. Et je n'imaginais pas qu'un jour, il me faudrait bien en venir à mon tour à me conjuguer au passé et à substituer à la formule rituelle, ici Samy Simon qui vous parle de Hong Kong ou de Mexico, prélude à tant de bavardage, le mélancolique « J'étais là, telle chose m'advint ». Et voilà que tout à coup, j'ai rendez-vous devant vous avec 25 ans et plus de souvenirs. Ce qui n'aurait en soi d'ailleurs rien d'extraordinaire s'il ne se trouvait que ces souvenirs, pour une bonne part, n'étaient précisément aussi les vôtres. Car pour les hommes de ma génération, il s'est produit un fait extraordinaire. Et c'est que pour la première fois dans l'histoire, grâce à l'avènement de la radio, ils ont pu vivre cette histoire en commun. Participer à la même aventure, réagir aux mêmes événements, ressentir les mêmes angoisses, les mêmes joies, les mêmes peines, vibrer au même diapason. Chaque âme individuelle se doubla d'une sorte d'âme collective, chaque conscience s'élargit aux dimensions de l'univers. Et durant tout ce temps, j'aurais été un peu ce guetteur à l'affût, posté à tous les carrefours qui vous tendait ce miroir magique, ce filtre étrange à fabriquer de la mémoire. Car ces chants, ces voix, ces bruits de bottes, ces discours qui par milliers s'entassent dans mes armoires, c'est tout le bruit que fait le monde quand il bouge. Et tout ce qui demeure aussi, vendange faite, de temps de départ dans la fièvre, d'océans survolés, de continents parcourus, de confidences recueillies, d'événements débusqués, de tant de choses enfin qui, à l'instant de naître ou de mourir, ont dû passer par mon micro. Et je me dis parfois que si toutes ces voix, tous ces chants venaient à s'élever ensemble, cela ferait un étrange concert boomerang à vos oreilles, quelque chose comme l'énorme symphonie témoin de notre temps, pleine elle aussi de bruit et de fureur, comme dit Macbeth, elle aussi écrite par un fou, et qui elle non plus peut-être ne voudrait rien dire. Au cours de l'été 39, je m'efforçais d'oublier les menaces de l'heure et de les faire oublier en promenant mon micro de ville en ville à travers l'un des rares pays d'Europe où l'on pouvait encore se donner l'illusion de croire au bonheur. La Suisse, cette année-là, s'était donné le luxe d'offrir au monde un échantillonnage complet de toutes les joies qu'il était si près de perdre. Et d'abord, cet extraordinaire festival musical de Lucerne, créé l'année précédente pour faire pièce à celui de Salzbourg, passé sous la botte nazie, et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Une seule ombre au tableau peut-être pour les gens superstitieux, la grande exposition internationale de Zurich, qui venait d'ouvrir ses portes, et qui leur rappelait fâcheusement que la dernière avait eu lieu 25 ans plus tôt, en juillet 1914, c'est-à-dire à la veille même de la Grande Guerre. À Lucerne, cependant, la saison s'achevait. Une saison éblouissante où Toscanini, Bruno Walter, Pablo Casals, Rachmaninoff, Horowitz, les chœurs de la chapelle Sixtine et j'en passe, composaient la plus éclatante mobilisation de talents qu'on n'eût jamais vue rassemblée sur un si petit espace en Europe. Aussi le monde entier s'y était-il donné rendez-vous, et dans cette minuscule Babel, on entendait parler toutes les langues du monde. Cependant, le drame était proche, et chacun le sentant venir, se hâtait de jouir d'un bonheur menacé. La présence tous les soirs au concert d'une jeune personne assez forte, aux traits accusés, au nez aquilin, semblait aux initiés pourtant comme un gage de paix. Friedlin Wagner, la petite fille de Richard Wagner et qu'on disait la filleule d'Hitler, résidait alors en effet à Tribschen, la belle villa au bord du lac où son père Siegfried était né, et où son grand-père, entre 1866 et 1872, avait écrit quelques-unes de ses œuvres maîtresses telles que Les Maîtres Chanteurs, Parsifal et Le Crépuscule des Dieux. La ville de Lucerne l'avait acquise et transformée en musée, mais la mettait chaque été à la disposition des héritiers. Un soir, cependant, le fauteuil de Friedlin resta vide. Un mystérieux télégramme venait de la rappeler à Bayreuth. Et comme si c'eût été là le premier signe annonciateur, les choses n'allaient pas tarder à se précipiter. Le lendemain, un drame affreux s'abattit sur l'une des gloires du festival. la fille de Bruno Walter, qui avait réussi à quitter l'Allemagne et à fuir les persécutions nazies, et qui venait à peine d'arriver à Zurich, fut tuée la nuit d'un coup de revolver tiré à bout portant par son mari, victime d'une dépression. Et cela, la veille même du jour où son père devait diriger le concert. Ce fut Toscanini qui le remplaça au pied levé, dans l'atmosphère d'émotion et de tristesse qu'on imagine. Cependant qu'à la même heure, dans la petite chapelle du crématoire de Zurich, un Bruno Walter, écrasé de douleur, pendant toute la durée de l'incinération, jouait au piano la sonate au clair de lune, le morceau préféré de sa fille. Le 23 août, l'annonce de la signature à Moscou du pacte germano-soviétique éclata comme une bombe. À Lucerne, un vent de panique souffla sur la ville. Et tout ce qu'elle comptait de snobs, de milliardaires, de rois de la finance, de stars, de princes, de maharajas, réglant précipitamment leurs notes d'hôtel, certains même oubliant de le faire, se précipitèrent vers le terrain d'aviation ou en direction de la frontière. Et Lucerne, la veille encore bruyante et joyeuse, se mit à ressembler à une ville morte, une Bruges. Et l'on put se demander un moment si le dernier concert qui devait terminer la saison le 30 août en apothéose, avec Toscanini au pupitre et Horowitz au piano, aurait lieu. Ou si le plus grand chef d'orchestre du monde n'allait pas lever sa baguette devant des fauteuils vides. C'est alors qu'il se passa cette chose étonnante. À la veille d'un des plus grands drames de l'histoire, et alors qu'aucun espoir n'était plus permis, il se trouva un peuple assez épris d'art et d'idéal pour se précipiter à un concert. Moins de 2 heures après l'ouverture des bureaux, il ne restait plus une place disponible. La Suisse avait relevé le défi. Tant bien que mal, cependant, le 30 août arriva. Toscanini, donc, ce soir-là, dirigeait la 9e et le 2e concerto de Brahms avec Horowitz au piano. Près de 300 stations de radio de toutes les parties du monde diffusaient le concert, que pour ma part, j'avais l'honneur de présenter aux auditeurs de langue française. Jamais encore, je crois bien, sauf peut-être pour le couronnement du pape l'année précédente, aucun événement dans le monde n'avait donné lieu à une telle mobilisation de réseaux. Seul ou presque, cependant, de tous les pays d'Europe, l'Allemagne, en raison de la présence d'Horowitz au programme, avait décidé de ne pas participer à ce formidable carrousel des ondes. Mais ce n'en était pas moins par le canal de Berlin que passaient les circuits de la plupart des pays scandinaves, des pays baltes, des pays d'Europe centrale, et même, ô ironie tragique, de la Pologne. Et c'est ainsi qu'une heure à peine avant le concert, au moment des essais, un extraordinaire dialogue s'institua entre les techniciens des stations de tous ces pays, un dialogue dont Berlin occupait le centre. Ce sont sans doute les dernières paroles amicales qui s'échangèrent ce jour-là par-delà les frontières en cette ultime veillée d'armes.
Hallo Berlin, hallo Berlin, ich sende euch Musik für Prag.
Danke, aber hallo, sprechen.
Hallo Bern.
Ja?
Wir sind bereit, können Sie die Modulation bekommen?
Sofort.
Hallo Bern.
Was?
How many minutes would it be before you start?
Between 20 and 25 minutes.
Okay, bye.
Hallo Paris.
Oui.
Est-ce que c'était bon ?
Très bon.
Parfait.
Et ainsi, à quelques heures de la plus grande catastrophe de l'histoire, et alors que déjà les bombardiers allemands attendaient sur le terrain d'aller déverser leur cargaison de bombes sur Danzig, des hommes, qui pour la plupart allaient le lendemain se réveiller ennemis, s'interpellaient gentiment de capitale à capitale, et unissaient tous leurs efforts pour qu'en cette veille d'apocalypse, par une espèce de trêve miraculeuse, Lucerne put parler une dernière fois au monde un langage d'amour. Et lorsqu'un instant plus tard, je m'approchai à mon tour du micro, j'éprouvai jusqu'au vertige la sensation de participer à une espèce d'immense prière collective. J'entendais, à travers le mien, le cœur de millions d'hommes battre à l'unisson dans des millions de poitrines. Et mes larmes, que je pouvais à peine contenir, je savais bien que c'était les leurs. J'ai conservé de ce moment l'enregistrement original. Le voici. Il n'est pas gai, je m'en excuse, mais qu'il était alors.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici arrivés au terme d'une saison qui fut belle et glorieuse, Et le concert que vous entendrez ce soir est le dernier d'une série éblouissante et qui aura été à la fois la parure et l'honneur de Lucerne. Et ce serait mélancolique de vous parler ce soir pour la dernière fois de cette ville jolie et si accueillante, si ce n'était encore beaucoup plus que cela. Tout ce qui peut encore exister au monde de grand et de noble, tout ce que nous possédons à cette heure de précieux et d'irremplaçable, tout ce qui fait que la musique est chose si grande et qu'un souffle divin à coup sûr l'anime, le voici ce soir ici rassemblé, et d'ici tendu au monde, à vous tous, comme un calice, comme un offertoire. Toscanini, Horowitz, le beau-père et le gendre, le chef génial et le génial pianiste ont leur nom d'associer ce soir sur un même programme. Les musiciens du monde entier savent bien ce que cela signifie d'exceptionnel et de rare, et ils sont émus. À n'importe quel autre moment, c'eût été en soi déjà un événement, aujourd'hui, c'est un signe. Par-delà les conflits de race, de religion, de nationalité, puisqu'hélas nous en sommes là, par-delà les heurts, la violence et la haine, deux hommes, un Arien, un Hébreu, un Latin et un Slave, après s'être unis par les liens de famille, s'associent pour faire entendre au monde un message d'amour. Tandis que la terre retentit de toutes parts de rumeurs guerrières et du bruit des légions en marche, que les épées sortent des fourreaux, que les peuples angoissés retiennent leur souffle dans l'attente infiniment triste de la mort, voici que dans un instant va s'élever d'ici un magnifique appel à la vie. C'est à croire qu'un Dieu ait voulu agencer cette chose et confronter pour nous, à l'heure peut-être décisive, l'atroce visage de la guerre et le visage radieux de la paix. De quelque bord de main que penche le destin, ce soir aura été pour nous un peu comme le signe avant-coureur de la joie renaître, comme la figure de proue du beau navire, un instant menacé, qui de nouveau prend le large, ou au contraire, comme le poignant, le déchirant adieu au monde d'une certaine douceur, d'une forme de grâce à jamais perdue, et qui eussent mérité, cependant, un destin plus durable. Hommes et femmes de tous les pays, braves gens de partout, vous tous qui m'entendez, quelle que soit votre langue, votre terre, votre foi, écoutez le concert de ce soir avec une particulière ferveur. Il est comme le suprême message d'un monde à la dérive, comme la bouteille à la mer, comme le SOS obstiné d'une civilisation. Quelle que soit votre langue, il vous parlera le langage du cœur. Écoutez-le donc comme on prie.
Puis Toscanini, dans un silence religieux, leva sa baguette, promena lentement son regard de feu sur l'orchestre, et pour des centaines de millions d'êtres, d'un bout à l'autre de la terre, la musique balaya tout le reste.